is the NBA on NBC. The 1997 NBA Finals. Tonight, it's Game 5. The Chicago Bulls versus the Utah Jazz.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Mythe ou Réalité, le voyage dans le temps, au prisme de plusieurs sciences et de plusieurs propos. Et aujourd'hui, on va avoir une approche ensemble pluridisciplinaire sur un objet assez particulier, la NBA, la National Basketball Association, qui est la ligue professionnelle nord-américaine de basketball. Alors, en fait, il s'agit ici de penser ensemble la question du rapport au temps dans le spectacle sportif actuel et aussi dans sa représentation, qu'elle soit à la fois médiatique ou bien au sein de la culture populaire. On va voir que, justement, la NBA a cette particularité-là, qu'elle est représentée, qu'elle se représente et qu'elle est représentée dans de multiples objets. Et dans ces représentations-là, il y a un rapport au temps particulièrement signifiant qu'on va évoquer ensemble. Alors pourquoi le sujet est intéressant, me direz-vous ? Eh bien c'est assez simple en fait. Comme vous le savez, hein, le sport professionnel est vraiment ancré dans le présent. Il faut voir notamment dans le principal mode de consommation du sport pro, qui est lorsqu'on le regarde par exemple dans les grands événements, hein, nous sommes en allés en année olympique ou d'euro, de football masculin, etc. On voit un présent qui est particulièrement brûlant, c'est-à-dire qu'une fois que l'événement se termine, il appartient direct au passé. Vous le voyez, si vous avez regardé par exemple France-Suisse, une fois la défaite, une fois le dernier tir au but manqué, hop, les gens passent à autre chose et ça appartient au passé et on regarde vers le prochain événement. Et pourtant, le spectacle sportif, il est constitué de va-et-vient incessant entre un passé brûlant, hein, vraiment, qui anime les consommateurs de sport, et aussi un passé qui est omniprésent, en toile de fond, et un futur brillant qui apparaît à l'horizon et qui permet de créer une sorte de temps cyclique où chaque saison est un éternel recommencement. Et on va vers le prochain récit qui va animer véritablement les spectateurs, qu'ils soient fans d'une équipe ou d'un joueur ou autre. Et c'est particulièrement signifiant dans le cas de la National Basketball Association, la NBA, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, on est en droit de s'interroger, justement. Si on avait Doc et Marty en face de nous, on pourrait leur demander, la NBA, sa couverture médiatique et sa représentation au sein de la culture populaire, est-ce qu'elle permet de voyager dans le temps ? Eh bien, la première réponse, on va le voir, hein, on va le voir dans ce podcast, mais tout d'abord, effectivement, il y a un certain nombre de dates, un certain nombre de matchs, etc., qui appartiennent à une sorte de patrimoine commun aux fans de NBA. Il y a des images communes, des récits communs, et ce patrimoine que j'évoquais, hein, ce patrimoine sportif, il est à la fois dans la performance en elle-même, hein, qui est un patrimoine, mais aussi dans les images qui en ont été extraites. En effet, c'est le propre, hein, véritablement du spectacle sportif américain de savoir véritablement recycler, redéfinir, reprendre les images du live, du présent, de les réagencer, hein, de reprendre le chaos du présent, de le réagencer et d'en produire un récit qui fait parfaitement sens et qui permet véritablement de développer un certain nombre de thèmes qui vont animer les spectateurs et donc permettre notamment la consommation de ce spectacle sportif. Donc par exemple, si je vois des fans de NBA et que je leur dis « Ah, si je te dis Game 1 des finales 1992 », vous allez répondre « Ah oui, The Shrug, c'est Jordan qui marque ses 6 paniers à 3 points, qui fait son célèbre geste des épaules, son dernier match, le dernier match de Bryant récemment, etc. » Tout cela, la simple évocation, soit d'une date, soit d'un match en particulier, va réinvoquer dans la tête des spectateurs des images, une sorte d'images d'épinal qui reviennent. Et ces images en disent long, pourquoi ? Parce qu'elles ont été choisies pour une raison, que le récit est conservé ou reconstruit d'une certaine manière pour une raison précise. Et il faut s'interroger là-dessus. Et si l'on se souvient de tout cela, c'est que la NBA, avec le concours des médias, hein, qu'ils soient traditionnels ou plus récents, les réseaux sociaux, etc., développe un récit, ou ce qu'on peut appeler un storytelling, hein, n'est-ce pas, le fait de mettre en récit des matchs. En fait, on part, pour vraiment schématiser, on part d'une performance sportive, hein, d'un spectacle sportif, on le réagence et on en développe une narration, on tisse une narration autour de ce spectacle sportif pour faire davantage sens et pour inspirer les fans. Parce qu'au final, les fans, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent à la fois du plaisir. Certains recherchent une forme de ce qu'on dit escapism en anglais, le fait de s'échapper de la vie quotidienne. D'autres recherchent la performance, hein, le culte de la performance. D'autres cherchent à faire communauté et à créer du lien social. D'autres cherchent des formes d'inspiration, des identifications avec des personnages, etc. Et du coup, ces récits, développés par la NBA et leurs partenaires, vont permettre cela. Ça crée notamment du débat qui est à jamais irrésolu. Oh, est-ce que mon joueur est meilleur que le tien ? Je ne sais pas, peut-être celui-ci, et blablabla. Et ça, c'est éternel, les éternels débats entre fans. Mais au final, ces fans-là se retrouvent entre eux, dans une communauté, une sorte de communauté supérieure. Vous voyez, c'est un petit peu comme si on avait une sorte de poupée russe de communauté. Vous avez votre équipe, vous avez votre joueur de cœur, etc. Vous allez débattre avec celui qui soutient une autre équipe, mais au final, vous êtes ensemble dans la communauté de ceux qui aiment le basket et qui aiment la NBA en particulier, et qui connaissent les récits et le temps reconstruit, le passé reconstruit par la NBA lorsqu'elle se raconte elle-même. Et ça, ces communautés sont extrêmement fortes et, grâce aux récits développés par la Ligue et ses partenaires. Et donc, comme vous le voyez, c'est une affaire de temps et de récits. La perception du temps, le rapport au temps va être distinct hein, pour les uns et les autres, mais avec du commun. Et donc, alors, pour parler de cela, sur mon propos, je vais aller rapidement, mais il y a certains auteurs qui sont importants et qui sont à connaître et qui peuvent vous inspirer vous-même hein, dans votre quête du rapport au temps, si cette quête vous intéresse. Il y a les travaux de Georges Poulet sur le rapport au temps dans la littérature, avec lesquels on pourrait vraiment tisser des liens lorsqu'on évoque et lorsqu'on étudie la représentation médiatique du sport professionnel. Les historiens également, dans le rapport au passé, à l'histoire, à la mémoire, au patrimoine, toutes ces notions-là. Si on prend les travaux de Trouillot et notamment son livre Silencing the Past, on voit que certaines histoires sont passées sous silence et que lorsqu'on fait le récit de son passé, la sélection que l'on va faire, le montage, hein, pour prendre le langage de la NBA et des médias, le montage est signifiant. On utilise des histoires qui vont remplacer l'histoire qui s'est déroulée, on va sélectionner et du coup il faut s'intéresser aux locuteurs, aux producteurs de ces récits. L'exemple fondamental lorsqu'on évoque la NBA, c'est que lorsque vous voyez l'histoire, le passé de la NBA tel qu'il est raconté par la NBA elle-même, il y a une ellipse temporelle qui est énorme entre, disons, les années 60 et les années 80, une parenthèse, et notamment cette parenthèse, elle correspond à quoi ? À la ABA, notamment, l'autre ligue de basket pro nord-américaine, qui était empreinte d'une autre esthétique, d'un autre rapport au basket. Et donc, la NBA choisit de savamment passer autour de cette décennie des années 70, qui était aussi une décennie durant laquelle il y a eu pas mal de débats et de controverses autour de la ABA et de la NBA pour des affaires extrasportives, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de vraiment omettre cette période, alors qu'elle est parfaitement intéressante sportivement, mais culturellement notamment, et politiquement aussi, dans le contexte américain. Donc voilà, s'intéresser à qui raconte l'histoire et à ce que ça implique. On peut aussi évoquer Michel de Certeau et son étude de l'écriture de l'histoire, avec la question de la production de l'histoire, et qui se situe vraiment du côté du pouvoir politique qui fait l'histoire. Là, effectivement, il y aurait une dimension politique, en quelque sorte, dans la réécriture, dans la fabrication de l'objet histoire de la NBA, dans l'organisation de la durée, je l'ai dit, hein, sur les années 70, la mise en scène du récit, et aussi de ce rapport entre histoire et mythe, qui est très 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 prononcé dans le spectacle sportif contemporain. D'autres auteurs, notamment Paul Ricoeur, j'évoquais cette idée du temps présent, qui est une sorte de chaos qui est ensuite réorganisé, et avec notamment une mise en intrigue. Tout cela, Paul Ricoeur le développe savamment dans Temps et Récits, que je vous invite à approcher. Ce lien entre histoire et mise en récit est particulièrement intéressant. Et il n'est pas naturel pour les historiens de s'interroger là-dessus, de se dire « Quoi, l'histoire serait du récit ?» Mais non, au contraire, souvent levé de bouclier des historiens. Là, en l'occurrence, je pense que c'est très intéressant de s'interroger sur les productions, qu'elles soient médiatiques, ou même les productions d'historiens sur l'histoire de la NBA, pour voir que en vérité, ce sont les mêmes récits qui sont repris, et ce sont des récits, ces choses-là. Est-ce que c'est de l'histoire ? Voilà, une interrogation à avoir. Autre auteur intéressant, Michel Foucault, et notamment sur la notion d'hétérotopie, puisque une hétérotopie, pour simplifier, pour schématiser, c'est donc un contre-espace qui tend à neutraliser, purifier, idéaliser les espaces existants. C'est un lieu ailleurs de construction, de formation, un espace de juxtaposition de plusieurs espaces, avec un système d'ouverture et de fermeture. Voilà les grandes lignes, rapidement, de l'hétérotopie. Et en vérité, lorsqu'on prend une retransmission télévisée d'un match de NBA, lorsqu'on prend un magazine qui couvre la NBA, lorsqu'on prend un jeu vidéo, eh bien, ne pourrions-nous pas parler d'hétérotopie ? Effectivement, il y a les différents éléments, la purification, l'idéalisation des espaces existants, lorsque vous voyez les espaces reconstruits dans les jeux vidéo, on y est tout à fait, les magazines qui vont prendre l'angle pour glorifier, les introductions de retransmissions télévisées qui vont être tout à fait dans ce registre-là, eh bien voilà, on est dans cette purification, cette idéalisation, on est aussi sur la construction, la formation, notamment de la virilité, alors, il faut être puissant, il faut se contrôler, tout cela est rabâché à tort et à travers dans ces différents médias. Et les différents espaces qui se juxtaposent, oui, tout à fait, et notamment les espaces-temps, le passé, le présent, le futur qui s'imbriquent. Et l'ouverture-fermeture, là, on est tout à fait. Je vous ai passé en introduction le générique de donc Game 5 des finales 1997, la musique de NBC, qui était donc la musique qui était aussi reprise dans les retransmissions françaises notamment, mais aussi au Japon ou dans d'autres pays, eh bien, cette musique-là fait office d'espace d'ouverture. Et là, paf, le récit commence. Juste avant, d'ailleurs, cette musique-là, il y avait une introduction romancée qui reprenait le fil de la finale, qui retissait le récit de la finale pour mener au prochain épisode, what's next, voyez. Et donc voilà, des choses qui sont intéressantes, et puis si on est dans le pluridisciplinaire, on peut aussi s'interroger sur les études médiatiques, la communication, et notamment Walter Fischer qui parle de l'homo narrans, le fait que nous sommes des êtres de récit, et que le récit est omniprésent. Alors, ça, c'est allié évidemment à Paul Ricoeur qui met l'histoire et le récit. Vous voyez, donc le creux de ce rapport entre la NBA et le voyage dans le temps, c'est la mise en récit et le rapport à l'histoire, le passé, etc. Les différentes temporalités, comment elle se vit. Alors, voyage dans le temps grâce à NBA, mythe ou réalité ? Eh bien, notre DeLorean, elle empruntera trois failles spatio-temporelles, si j'ose dire. La toute première, commençons. C'est un peu Captain Obvious. Ce qui est évident, c'est que, effectivement, le voyage dans le temps est une réalité. Le passé est omniprésent. Vous allez au stade, vous avez des musées dans les stades, vous avez des affiches, des maillots, des bannières de titres du passé, des statues. Tout cela, ce sont des rappels du passé et des récits antérieurs. Vous avez les matchs à la télévision qui sont sans cesse faits de comparaisons avec les performances du passé, des génériques qui tissent des liens entre le passé et le présent, etc. Des DVD qui sont vendus de matchs de légende, hein, justement, où on vous resserre les matchs as it happened, comme ça s'est passé, et en vérité même c'est faux, mais bon, on y reviendra un peu plus tard. Vous avez des documentaires qui revisitent le passé, vous avez le musée de la NBA, le Hall of Fame, le musée du basket aux États-Unis qui est essentiellement lié à la NBA, aussi à la NCAA, mais essentiellement à la NBA. Or, revisite le passé. Les magazines font beaucoup de rétrospectives, de top 100, qui est le meilleur joueur de l'histoire, blablabla, c'est sempiternel. Les livres, les jeux vidéo, tous vont évoquer le passé, vous permettre de revisiter ce passé et même de le redéfinir dans le cadre des jeux vidéo, très clairement. Ensuite, il y a le futur. Évidemment, l'évocation des prospects, les futurs joueurs, qui est extrêmement présente aux États-Unis, un peu moins en France, mais ça apparaît désormais, notamment dans le cadre des Fantasy League. Donc là, on commence à s'intéresser qui sont les futurs grands joueurs de la NBA. Et donc, le futur est là. Et après, on peut s'interroger sur le fait que ce spectacle-là offre plus qu'une réalité, voire potentiellement une hyper-réalité, point d'interrogation. Parce qu'il y a tellement de voyages et tellement d'interprétations entre le présent et le passé, le réel et l'imaginaire sont tellement mélangés, voyez, qu'on peut se demander si le générique ou l'apparition du logo NPN ne nous fait pas basculer dans un monde particulier qui serait pas du réel en vérité. Donc voilà une réflexion hein, qui permet de voir la réalité, en tout cas du voyage dans le temps et de l'interprétation des différents espaces-temps dans le spectacle sportif. Mais après, la deuxième partie, c'est quoi? C'est qu'en vérité, on est à 87 miles per hour. On n'est pas encore dans le voyage dans le temps. En vérité, les autres temps sont simplement peut-être juste une occasion de parler du présent. Effectivement, par exemple, on dit « has it happened ?» Mais en vérité, ces films-là qui sont en DVD, ils sont montés, coupés. Par exemple, il y a un exemple très très parlant, c'est que pendant les finales 95, le match 5... match 5 des finales 94, Houston Rockets New York Knicks, le match 5 est interrompu, le live passé à la télévision américaine est interrompu par quoi? Par la course-poursuite entre la police de Los Angeles et O.J. Simpson. Moment fort de la culture américaine, véritablement. Or, la NBA a revendu la finale 94 dans un pack de DVD et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a déjà coupé le match assez savamment où il ne reste véritablement que le sport, hein, la pratique du basket. Et donc là, on s'interroge. Si on n'a pas les pubs du live, est-ce que c'est toujours la même chose? Si on n'a pas l'intro, le récit, la mise en récit faite par les journalistes de l'époque, est-ce qu'on est vraiment dans « Has it happened ?» Non, on n'y est pas. Et en plus, on nous a coupé la course-poursuite avec OJ. Et donc là, on s'interroge véritablement, on se dit « Non, not as it happened. » Et donc, en vérité, ce qui est intéressant, c'est le choix. Le choix aujourd'hui d'omettre cet épisode fort, et donc c'est un choix du présent. Et donc ce montage, il est le fruit du présent. Ensuite, l'évocation de l'histoire du basket, elle est aussi intéressante. Quand vous prenez les jeux vidéo, on vous dit « Ah oui, vous allez pouvoir retraverser l'histoire du basket ». Non, non, on va traverser l'histoire du basket nord-américain, l'histoire de la NBA à travers certains récits choisis par la NBA, etc. Et ça, ce sont des choix du présent. Et derrière ces choix du présent, il y a quoi? Il y a des dimensions de soft power. Parce qu'on va montrer quoi? On va montrer que l'histoire du basket, c'est une histoire américaine. Et que les étrangers y sont présents de manière minoritaire et surtout de manière secondaire par rapport à The Dream Team, de toutes les Dream Teams successives qui vont être au contraire mises sur un piédestal. Donc soft power qui est pour quelque chose de très très contemporain de la sortie des jeux vidéo. Ensuite, les récits qui sont développés, et même des récits sur des épisodes du passé, en vérité sont le reflet d'une idéologie bien présente. Le culte de la performance, l'injonction à la production, les stats, oh, il faut tel point, oh là là, incroyable, les performances, il a marqué tant de points dans un match, incroyable. Là on voit bien que c'est lié à une idéologie très très prégnante, et notamment américaine, en lien au capitalisme. Il y a un rapport à la douleur qui est particulier, la mise en avant des alpha males, ouais, il faut être un homme, un vrai, avec tout ce que ça implique de particulier et de sensible à déconstruire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces récits-là sont liés à une conception que l'on a au temps du récit de ces notions-là, la performance et la question du genre, par exemple. Enfin, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les récits actuels, plus récents, reflètent une sensibilité nouvelle. On a davantage d'intérêt pour les questions liées au racisme, justement, déconstruire le racisme, déconstruire les questions de genre, vous avez les questions d'intersectionnalité, toutes ces questions-là, qui sont très très actuelles, eh bien, elles apparaissent dans les documentaires faits par ESPN 30 for 30, par exemple, dans le documentaire Black Magic qui a été produit par Earl Monroe, par un ancien joueur, même The Last Dance, quand il y a eu The Last Dance sur Netflix, vous aviez des débats autour de ce que Jordan représentait et représente maintenant. Et vous avez un décalage. Et c'est intéressant de voir que maintenant on parle de toxic masculinity quand on voit Jordan, au lieu de le dresser comme un héros des temps modernes, il devient une figure beaucoup plus complexe. Et donc ça, c'est intéressant à déconstruire et c'est très très actuel. Et donc le récit reflète ce qui se passe actuellement. Et donc la troisième partie, c'est le step back. Vous voyez, on a vu, ah oui, c'est une réalité, mais en fait c'est un mythe. Non, on parle du présent. Eh bien en fait, en vérité, ce qui permet le step back, ce troisième temps, ce sont les mythes sportifs qui sont véritablement entre passé et présent. Il y a la reprise de mythologie dans les différents récits. On a le Jordan et ses différents titres, c'est repris dans les médias américains, et c'est Hercule et ses 12 travaux. très très clairement. Vous avez de shots, etc. Vous avez une succession de tableaux, de last shot, de shot contre Cleveland, de shrug contre les Blazers, de flu game, le match 5 de 97 dont vous avez entendu l'introduction. Tout cela, c'est une suite de tableaux, et c'est Hercule et ses 12 travaux. Vous avez le phénix qui renaît de ses cendres, ça c'est toutes les histoires d'équipes qui renaissent après de nombreuses défaites, etc. Vous avez le petit pousset, ce que nous on appelle le petit pousset, ce que les Américains appellent Cinderella, c'est la Cendrillon qui débarque au bal. Eh bien, tout cela, voilà, c'est une sorte de reprise de mythologie de différentes cultures, de différents récits de différentes cultures, pour ne pas évoquer même le monomythe de Joseph Campbell, qui est redéfini de plusieurs manières à travers le récit du spectacle sportif contemporain. Mais vous avez aussi une mythologie américaine, qui est très prononcée. Manifest Destiny, et Pluribus Unum, le fait de faire un à plusieurs, quand vous avez des histoires d'équipes qui se lient ensemble, et notamment à travers la barrière de la race aux États-Unis, c'est très 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 symbolique. L'importance de la méritocratie, les Founding Fathers, quand on évoque les premiers joueurs, les grands joueurs du passé, etc. La figure du self Man, celui qui réussit, et souvent, notamment dans une mythologie afro-américaine de la NBA, vous avez les figures de ces joueurs qui viennent des quartiers, des inner cities, pour devenir des multimillionnaires. Allen Iverson ou LeBron James, récemment, qui est parti des inner cities et qui devient more than an athlete. Tout ça, c'est une mythologie aussi américaine du self-made man. Et vous avez aussi les figures de pionniers. Tous ceux qui réussissent à repousser sans cesse la performance athlétique sont des pionniers à l'américaine. Donc, voyez. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que notre rapport à ces mythes nous dit quelque chose d'aujourd'hui. Si les Américains aiment autant le film Hoosiers, ça dit quelque chose de l'Amérique, car le film Hoosiers a une dimension raciste assez intéressante à déconstruire. Et le fait que ce soit le film de sport préféré des Américains nous dit quelque chose sur l'Amérique et sur son rapport à la question ethno-raciale. Je parlais de Jordan, qui est maintenant un changing sign, son sens évolue avec le temps, parce que maintenant on se demande s'il n'est pas finalement assez politisé. Voilà, on redéfinit ces mythes, et l'approche de ces mythes à travers différentes périodicités nous permet de voir ce qu'ils disent d'aujourd'hui, et qu'en vérité le passé et le présent sont véritablement liés. Enfin, il y a la notion d'exposition de ces mythes, et notamment récemment la montée des auto-représentations et le fait qu'il y a une révolution véritable communicationnelle dans la mise en récit de la NBA, puisque maintenant la NBA et les médias qui sont liés à la NBA ne sont pas les seuls à produire le récit. Il y a les joueurs qui peuvent produire leur propre récit, leur contre-récit. Les autobiographies de joueurs, elles existent depuis toujours et elles sont extrêmement intéressantes, elles sont pionnières dans cette question-là, mais maintenant les réseaux sociaux. Les joueurs peuvent s'exprimer, ils n'ont pas besoin de passer par ESPN ou the NBA, etc. Ils parlent directement au public, et ça crée des contre-récits, ça permet de changer la version, le récit imposé par la NBA éternellement, historiquement. Aujourd'hui, vous avez une auto-représentation particulièrement signifiante avec une dimension politique tout à fait intéressante. Et enfin, le dernier point de cette partie-là, c'est le global game, le fait que maintenant la NBA est un objet véritablement global, mondial, et qu'il y a une importance de la remédiation et de la réception qui est à déconstruire. Lorsque les Français retransmettent la NBA, ils vont avoir une approche différente des mythes. Ils vont faire naître d'autres mythes, redéfinir certains autres mythes. Il suffit de voir des médias comme Trash Talk, qui ont une vraie identité particulière. Ils ne vont pas reprendre à l'identique toute la symbolique et les récits américains. Ils vont tenter d'avoir justement un step back et une approche un peu différente qui va refléter aussi quelque part l'éthos français. En plus de l'éthos américain qui est reflété dans le spectacle sportif et dans sa médiatisation. Et aussi, quand vous regardez les mangas, par exemple les mangas japonais, quand vous regardez un manga japonais comme Kuroko's Basket, et vous avez The Extra Game où ils affrontent les Américains, oh, c'est le choc. C'est-à-dire qu'on a des mangaka qui sont vraiment influencés par la médiatisation justement de la NBA. Vous avez une génération de mangaka qui a été exposée à la NBA, et même aux vidéos N1, etc., au Street Ball. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez production de manga, vous avez la représentation, la mise en récit d'un duel entre le basketball japonais, emprunt de l'éthos japonais, contre les Américains qui viennent, les méchants Américains qui viennent affronter les Japonais. Et là, il y a la question de soft power, etc., qui sont très intéressantes. Bref, vous voyez, en vérité, ces questions de rapport dans le voyage dans le temps, vous avez plein de choses qui se retrouvent et vous avez un blur, un mix entre le passé, le présent, le futur, qui va créer, qui soulève des questions, et des questions éminemment politiques. Et donc, pour conclure, on voit que récemment, en fait, il y a une sorte de new agency. Vous voyez, on parle de free agency pour les joueurs, les free agents. Là, il y a une agentivité en tant que consommateurs du spectacle sportif. Le rapport au temps est intéressant dans le spectacle sportif. Vous voyez, la musique, l'introduction, c'est une Madeleine de Proust. On la mange et là, claque, on se retrouve tout de suite dans un temps passé pur, imaginé, fantasmé, etc. Et c'est un véritable ressort de consommation. La musique est très forte pour ça, notamment. Mais le rapport au temps, il est complexe et il est éminemment politique. On a parlé de storytelling. Le storytelling, Christian Salmon montre véritablement que c'est un instrument qui mêle communication, contrôle et pouvoir. Et un pouvoir qui est éminemment politique. Et donc, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que le public peut choisir. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir d'être bercé par le récit de la NBA. Vous pouvez choisir également les contre-récits qui reviennent sur des époques moins connues, qui viennent explorer faire naître d'autres récits qui permettent d'explorer d'autres facettes du spectacle sportif américain notamment. Et le jeu vidéo est l'exemple type, avec la possibilité de revivre ou de réécrire le passé et de construire même un autre temps parallèle. Et un petit peu comme quand Biff Tannen a volé l'almanac. Et ben voilà, paf! Avec le jeu vidéo, c'est votre almanac à vous, vous pouvez reconstruire un autre monde où votre équipe gagne de multiples titres. Et ces jeux vidéo ont une dimension poétique très très intéressante, notamment en lien aux questions de genre, aux questions ethno-raciales. Mais, chers amis, je dépasse mon temps, donc je vais vous laisser, mais dans tous les cas, vous voyez bien que ce spectacle sportif et la NBA, elle fait sens. Alors rêvons, certes, hein, lorsqu'on la regarde, mais interrogeons-nous également. Je vous remercie de votre attention.